Bonjour à tous, les controverses du village, édition numéro 10, partie 2. C'est Émilie Flamand qui aujourd'hui va lancer le podcast à la place de notre rédac-chef bien-aimé qui n'a pas pu être là, mais que vous retrouverez demain parce qu'il fera ça beaucoup mieux que moi.
Ou que moi, évidemment. Donc avec nous, nous avons un invité spécial.
Bonjour.
Romain Higita.
Enchanté et très content d'être invité dans ce podcast.
De Hate Art, donc, qui supervise toutes les, tous les événements séries de la Comic Con.
Pas tout seul, hein, avec...
Non.
Supervise. De 8 Art City, comme on dit en bon franglais, avec, donc, on est une quinzaine pour la programmation, l'organisation et l'animation des événements séries télé à Comic Con Paris.
Jusqu'ici, ça se passe comment Comic-Con ?
Ah bah jusqu'ici, ça se passe très très bien. On a déjà eu pas mal d'invités qui sont venus. On a eu hier Simon Assier, qui était formidable avec le commentaire audio live, donc au fameux concept qu'on a emprunté donc au village. La salle était pleine, Simon était ravi. Ce matin, on a eu toute l'équipe de la série, la production française Metal Hurlant Chronicles, donc adaptée du célèbre magazine de bande dessinée. C'est production française qui, pour l'instant, n'a pas été achetée par la France. C'est un gros problème. Je pense que c'est un sujet dont vous allez parler sur le village. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une production tournée par des équipes françaises, mais qui a déjà été achetée par pas mal de pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, sauf la France. Aucune chaîne française, pour l'instant, n'en veut. C'est quand même assez dommage. Et puis, l'autre gros événement de cette journée de vendredi, c'était la présence à Comic-Con Paris de Galen Heard, la productrice exécutive de la série The Walking Dead, qui donc nous a fait l'honneur de venir à Comic-Con Paris pour rencontrer les fans de la série, pour discuter pendant une heure, répondre aux questions du public, faire une séance de dédicace, etc., etc. Voilà un peu le programme de ces deux premiers jours.
Alors toi, Émilie, tu as eu la chance de voir Metal Hurlant Chronicles. Qu'est-ce que tu
Sentez-vous
en as pensé ?
Sentez-vous une pointe de jalousie dans la voix de Dominique ?
Je ne pouvais pas.
Alors, je tiens à dire que déjà, Dominique, s'il y a cette pointe de jalousie, c'est parce que Dominique, lui, contrairement à moi, connaît à la base Metal Hurlant. J'avoue que sur le sujet, donc, je ne connaissais que de nom.
C'est un bon test.
La revue. Oui, voilà. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, moi, j'arrivais avec un regard neuf. Pas vraiment dans l'optique de comparer les BD qu'il pouvait y avoir dans Metal Hurlant avec la série. Et j'en sors avec un avis franchement positif. C'est-à-dire que ça a de l'allure, ça a un style. Visuellement, ça fait pas cheap, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que 26 minutes, français, on peut dire. Non, ça a vraiment de l'allure et on retrouve. Moi qui pourtant ne connaissais pas les histoires initialement, on retrouve l'aspect BD dans la structure de l'histoire, vraiment, on le sent, mais très positif, globalement.
Et d'un point de vue qualitatif, est-ce que la qualité explique que ce n'est pas diffusé en France ?
Non,
ou pas du
tout ? Qui explique que ce n'est pas diffusé en France, pour moi, c'est le format 26 minutes et le fait que ce soit de la science-fiction, pas le fait que ce soit de l'anthologie, parce qu'au contraire, c'est... Le feuilletonnant, c'est pareil, on n'aime pas en mettre en France, mais l'aspect science-fiction, essentiellement, c'est très stylé quand même, hein. Vraiment stylé. Le premier épisode est tout en rouge, la première partie de l'épisode est tout
en rouge et noir.
Voilà, et c'est visuellement marqué. Je ne peux pas mettre ça à TF1.
Ce qui est vraiment intéressant dans les deux histoires du pilote, c'est que les deux styles sont justement très différents. C'est le même réalisateur qui a réalisé l'intégralité du pilote, Guillaume Umbrano, qui est également le scénariste et le producteur de la série. Et on a vraiment deux univers visuels complètement différents sur ces deux histoires. Et pourtant, il y a quand même le style Metal Hurlant, un futur à la française, tel qu'on a pu le voir. Moi, ça me rapproche ça. Il va peut-être hurler s'il entend ça, Guillaume. Moi, ça me rappelle un peu le cinquième élément. Je rentre pas dans la qualité du film, ni du scénario, ni quoi que ce soit, Mais le visuel, Besson l'a dit, quand il a fait Cinquième Élément, lui, il voulait faire son hommage à lui, à Metal Hurlant, en recrutant, tout comme Metal, pas mal de gens qui sont passés par ce magazine-là, des gens comme Moebius ou Jodorowsky, ont ensuite bossé pour le cinéma, sur Dune, Alien, Blade Runner, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans Cinquième Élément. Et c'est vrai que l'univers, au niveau des couloirs, dans la deuxième histoire, le grand patron qui regarde par sa fenêtre, les armures, tout ça, on retrouve un peu cet univers visuel. Donc si vous avez aimé l'univers, je dis bien visuel du Cinquième Élément, Metal Hurlant Chronicle risque de vous plaire.
Donc le reste, le fond, ça reste de l'anticipation. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on se sert de la science-fiction pour uniquement, j'ai envie de dire, expliciter des thématiques humaines profondes, quoi. C'est la séquestration, l'emprisonnement dans le premier, dans le second, est-ce que une personne peut être, une vie peut être plus importante qu'une autre selon son utilité, etc. C'est un peu ce genre d'élément, donc ça reste des thèmes classiques d'anticipation dans la science-fiction.
Alors évidemment, le gros événement de la journée, c'était la visite de Galan Hurd, la productrice de, entre autres, The Walking Dead, qu'on a donc rencontré ce matin lors d'une table ronde, puis ensuite lors d'une conférence. Comment s'est passée la rencontre avec Galan Hurd? Ça s'est fait rapidement, je crois que ça s'est géré en amont, parce que vous avez beaucoup fait de travail sur l'arrivée de la série en France au moment de son lancement.
Ça fait quasiment un an qu'on suit la série, avant même sa diffusion. Alain Carazé, qui bien sûr est le directeur du Dark City, qui bosse avec toute l'équipe là-dessus, et moi, on était déjà à la base des vrais passionnés du comics, The Walking Dead, sur lequel la série est basée. Donc nous, dès qu'on a su qu'il allait y avoir une série télé, que ce serait pour AMC, que ça serait réalisé, le pilote serait réalisé, écrit par Frank Darabont, que ce serait produit par Galen Hurd, tout de suite on s'est dit, ça risque d'être très intéressant, et ça risque d'être réussi. Après, il fallait voir ce que ça donnait, mais on se disait, quand même, là, c'est un truc à suivre. Et pour rien vous cacher, avant même la diffusion du pilote aux États-Unis, on avait déjà rencontré une bonne partie de l'équipe au MIP à Cannes, en octobre dernier, là où ils sont venus. Il y avait les deux acteurs principaux, Andrew Lincoln et Sarah Wayne Callis. Il y avait Robert Kirkman, le dessinateur du comics, le scénariste du comics. Le scénariste du comics et qui bosse sur la série. Et voilà, et c'est à partir de là qu'on a rencontré toute l'équipe, qu'on a suivi ça, qu'on a fait des articles dans différents magazines et qu'on a resté tous en contact et qu'on s'est dit, il faut absolument faire quelque chose à Comic Con Paris parce que c'est le lieu pour ça. C'est une série qui est adaptée d'un comics, c'est un vrai succès. On est vraiment dans le genre fantastique, donc vous pouvez pas ne pas passer à côté. Et le double effet qui se coule, c'est que en invitant Galen Hurd, on a aussi quelqu'un dont la carrière est entièrement sous le signe du fantastique et l'SF. C'est quand même quelqu'un qui a commencé chez Roger Corman, qui a ensuite travaillé sur tous les premiers films de James Cameron. Elle a coécrit Terminator, elle a produit Terminator, elle a produit Aliens, elle a produit Abyss. Elle a bossé sur d'autres films, sur Tremors, sur Armageddon, sur deux versions de cinéma du Punisher, sur les deux versions de cinéma de Hulk. Enfin voilà, elle a une carrière absolument phénoménale dans le domaine du cinéma de genre, également un peu de la télé, parce que Walking Dead, c'est pas sa première série télé. Elle avait bossé sur l'adaptation télé d'un film qu'elle avait également produit qui s'appelait Alien Nation. Le titre français, c'était Los Angeles Futur Immédiat. Elle a bossé sur la version télé. Elle avait également coproduit une coproduction franco-canadienne qui s'était tournée à Marseille, qui s'appelait Adventures Inc. avec Michael Biehn, le héros de Terminator. Il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes parce que la boîte canadienne qui produisait ça a fait faillite. Elle a bossé là-dessus. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs à raconter avec elle sur Walking Dead et sur la façon dont elle voit à la fois ce qui est possible de faire à la télé et sur la manière d'adapter les comics, puisqu'elle avait déjà fait ça pour le cinéma.
Frank Darabont, par contre, c'est sa première série télé. Est-ce que c'est avéré que...
Alors, je me permets d'intervenir.
Vas-y, je t'en prie.
C'est la première série de télé de Darabont en tant que créateur.
D'accord.
Mais Darabont a énormément bossé pour la télé avant de bosser pour le cinéma. C'est quelqu'un qui a commencé comme scénariste sur le jeune Indiana Jones et D'accord. sur les contes de la crypte. C'était quasiment l'un des scénaristes principaux du jeune Indiana Jones. C'est pour ça d'ailleurs qu'après, George Lucas lui a fait écrire l'une des premières versions du quatrième film Indiana Jones. C'est pas la version qui a finalement été tournée pour le Royaume du Crâne de Cristal, même si on était déjà dans l'idée des extraterrestres, qui ne sont plus des extraterrestres dans la version finale, mais des êtres d'un univers parallèle. Donc Darabont a vraiment un background télé avant sa première réalisation, c'est un téléfilm. avant Les Évadés, qui est son premier long métrage, il avait déjà réalisé un téléfilm avant ça, En Murée Vivante, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui est légitime sur le médium télé, qui comprend la narration télé, qui connaît l'économie de la télé. Donc ils sont pas allés au hasard là-dessus. Même si après, sur Walking Dead, il y a clairement l'ambition... Alors, une ambition, moi j'aime pas trop ce terme-là, mais de faire du cinéma à la télé, parce que ça voudrait dire que d'habitude la télé c'est pas bien, c'est moins bien que le cinéma. Je pense que tous les gens au village vous diront que c'est pas vrai. Moi, c'est un peu le côté autorisant d'AMC. Bon, ça c'est un vaste débat, je pense pas qu'on aura l'occasion d'entrer dedans, mais c'est clair que sur le pilote, toute l'équipe technique vient quand même principalement du cinéma. On a Greg Nicotero, qui est un maquilleur de cinéma, qui a bossé sur Evil Dead, sur tous les films de Tarantino. On a à la photo David Tattersall, qui est quand même le mec, le directeur de la photographie, qui a fait les Star Wars épisodes 1 à 3 et Speed Racer avec les frères Wachowski, et qui a bossé sur la plupart des films de Dragon. Donc c'est clair qu'on a une équipe de ciné sur le pilote. Mais dès qu'on arrive sur l'épisode 2, je suis un peu une digression, hein, vous m'arrêtez ici. Dès qu'on arrive sur l'épisode 2, toute cette équipe quasiment s'en va. Cette Tattersall n'a fait que le pilote. Greg Nicotero reste pour superviser quand même. Et le style, si on regarde bien, le style de mise en scène est quand même un peu différent sur, sur les épisodes suivants. Autant sur le pilote, on a des longs plans, on a vraiment des longs silences, mais qui ne sont pas du tout lents. On est vraiment dans la découverte de ce monde apocalyptique par le personnage de Rick Grimes, donc qui est tout seul. Donc pour ça, on a des longs plans contemplatifs. Et dès qu'on arrive sur l'épisode 2, qui est réalisé par l'équipe de réalisateurs, la principale de la série, on a des gens qui viennent de Breaking Bad, qui viennent de The Shield. On a vraiment le côté caméra à l'épaule, réalisation nerveuse. Donc là, on retombe vraiment dans, on va dire, le meilleur de la télé, sans tomber non plus dans la caricature, juste on met de la caméra à l'épaule parce que ça fait moderne. Je ne sais plus quelle était la question, mais on est arrivé à un truc intéressant.
Ce qui donne cette impression et qui ça justifie en fait par le fait que le pilote en lui-même, ce pilote de 2 heures, est assez ébouriffant et franchement excellent. Et après, on s'aperçoit de gros trous dans la narration, du manque de cohérence de certaines actions de personnages, qui donne cette impression que oui, en effet, sur 2 heures, c'est excellemment bien maîtrisé et l'expérience de Darren Bont dans le cinéma justifie ça. Mais par contre, par la suite, quand ça rentre vraiment dans une logique de série, ça pêche. Donc là,
je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Dominique. Moi, grosso modo, je trouve le pilote et l'épisode 2 formidables. Pour moi, ça fait un long film de 2 heures, on va dire. L'épisode 2 qui est clairement l'épisode le plus gore de toute la première saison. Les épisodes 3 et 4, pour moi, sont complètement ratés. On a un aller-retour entre le campement et Atlanta qui sert strictement à rien. On a réussi à se sortir d'une situation complètement inextricable, et on a failli tout s'y passer. Et ben non, on va y retourner. On ne sait pas pourquoi. Et notamment l'épisode 4, c'est très dommage, c'est l'épisode qui est écrit par Robert Kirkman, le scénariste du comics, et le pire épisode de la saison, celui où il tombe sur l'espèce de gang de Chicanos, qui en fait n'est pas un gang, mais des loubards qui protègent les petits vieux, ça n'a aucun intérêt. Et par contre, les 2 derniers épisodes, avec notamment l'attaque du campement et la scène d'agonie de l'un des personnages qui est absolument, émotionnellement, qui est très très lourde, je pense que c'est la scène qui a marqué tous les gens qui ont vu la série, qui ont vu la première saison. Sur les épisodes 5-6, on repart sur quelque chose de plus cohérent. Je pense que l'un des soucis de la saison, c'est peut-être une excuse un peu facile, parce qu'après tout, c'est pas les seuls à faire des saisons courtes, c'est que justement, il n'y a que 6 épisodes. On va dire, les Anglais font des saisons courtes, les Français aussi. C'est pas pour autant qu'on donne l'excuse de dire que, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, on est plus dur. Mais j'ai l'impression que sur Walking Dead, c'est vraiment le cas, parce que il y avait énormément d'attentes, et on partait en effet d'un point très très haut. Donc, saison 1, pour moi, semi-déception. J'attends quand même de voir la 2 pour avoir un avis définitif.
Alors, on va finir sur une note légère. Donc, les projections improbables de la journée, donc, voilà. C'est les rétro-découvertes.
Celle où je suis allée pendant la conférence. Et la conf. Moi, j'ai découvert, grâce à toi, Romain.
Ou à cause de moi, ça dépend.
Selon les moments de l'épisode, j'ai découvert Karateka Zenko.
Je pense que c'était une découverte pour beaucoup de monde.
Oui, oui. Je pense qu'il n'y a pas grand monde déjà qui aurait pensé que
ça existait.
Que Jean Marais, qu'il y avait une série de karatéka, de karaté en tout cas en France, et qu'il y ait Jean Marais dedans. C'est.
Alors, bah, voilà, et pourtant, il y en a une. On l'a retrouvée. Alors juste pour vous laisser un peu dans le contexte, on a passé ça dans la séance rétro-découverte, qui est quelque chose qu'on a instauré l'année dernière à Comic-Con. dans lequel on avait passé déjà quelque chose qui a fait forte impression, qui était Commando Spatial, alias Raumpatrouille Orion, une série allemande de science-fiction, un peu le Star Trek allemand des années 60. Et on s'était dit que, évidemment, on voulait faire revenir ce concept-là tous les ans. On s'était dit comment faire mieux ou comment faire pire.
Voilà.
Selon le point de vue. Mais on n'est pas là non plus. Enfin, là, je dis ça très honnêtement, on n'est pas là pour se moquer de ce qu'on diffuse. On a envie de montrer. Et ça, c'est même d'une manière plus large, c'est un peu tout le travail qu'on fait, nous, à Utah City, et y compris le boulot, je pense, qui est fait par toute l'équipe d'à suivre, hein, etc. C'est que la télé, c'est une histoire, la télé, c'est un background, et grosso modo, les séries télé, ça n'a pas commencé avec Mad Men, pour faire simple. Et voilà, donc on veut aller chercher des pépites, on veut montrer qu'il y a des trucs, qu'il y a eu des tentatives, qu'il y a eu des trucs bizarres, étranges, certes, mais qu'on n'a jamais revu depuis, et que la télé française des années 60, c'est pas juste Thierry Lafonde. Voilà. Donc, Karate Kazenko, en effet, série en 6 épisodes seulement de 1973, avec Jean-Marie qui fait du kung-fu.
Et pourtant... Il en fait pas tant que ça, du kung-fu.
Il a quand même 2 scènes où il se bat.
Ouais.
Sur les 4, il y a 4 scènes de baston dans l'épisode, il se bat sur 2 sur les 4, dont une où il est déguisé en plus.
Il dure 80 minutes, du coup.
Oui.
Donc, il y a quand même... Moi, je voudrais revenir avant les scènes de karaté sur quelque chose que peut-être tu vas pouvoir m'expliquer, que moi, je n'ai pas compris. Pourquoi on part sur l'histoire de la couronne ? Il y a une sombre
histoire
d'équipe archéologique bidon avec des espions dedans parce que le chef de l'équipe archéologique est un gros méchant. Que l'excuse, c'est qu'ils vont chercher une couronne. Est-ce que tous les espions sont là parce qu'ils veulent empêcher qu'on découvre quelque chose d'autre ?
C'est dit.
Il y a du gaz, il y a des armes biologiques de planquer. Sauf qu'en fait, les armes biologiques, au final, ils n'en ont rien à péter. Le gros méchant, tout ce qu'il veut, c'est détourner des avions pour pousser les Américains et les Russes à quitter les bases sur lesquelles ils sont en Europe, si j'ai bien compris. Enfin, et là,
alors, je dois vous avouer quelque chose, je n'ai rien compris non plus.
Merci, non mais je voulais être sûr.
Et ça n'est pas grave.
Voilà, je voulais être sûr. C'est donc pas que.
Ah non, je dois vous avouer, j'ai rien compris non plus à l'intrigue.
D'accord.
Ah non, j'ai rien pigé.
Il y a des phrases cultes. Alors, l'intrigue, ok, donc on zappe. Il y a des phrases cultes.
Je pense que les deux phrases les plus cultes, c'est quand même au début de l'épisode. Enfin, selon moi, le personnage joué par Jean Marais répond à une interview menée par Georges Decaune, qui joue son propre rôle. Donc, on est déjà un peu dans la mise en abîme. On est en 73 à l'ORTF, quand même. Et Jean Marais, qui ensuite va se battre pendant quasiment une heure, dit que, selon lui, la violence n'est pas une solution.
Oui.
Bon, hein, déjà. Et je pense que, quand même, l'autre phrase culte, c'est celle qui est prononcée par l'un des personnages à la fin de la deuxième baston contre Jean Marais, une fois qu'il l'a battu, lui sort un proverbe. J'ai pour préparer tout le Comic-Con et tout, il y a eu des extraits à la conférence de presse, donc c'est moi qui ai choisi les extraits, et donc j'ai entendu ce proverbe une bonne vingtaine de fois, je ne l'ai toujours pas compris.
Alors moi j'ai pas eu, je t'avouerai que autant j'ai noté quelques-unes des citations, parce que voilà, autant celle-là c'est vrai que tu l'entends. Tu n'arrives pas à remettre tous les mots dans l'ordre parce que tu n'as pas compris complètement le sens et du coup tu n'arrives pas à la redire. Mais elle est pas mal en effet. Et puis c'est c'est une série qui a
il n'y
a qu'un seul asiatique hein, dedans. Et en plus un bon costaud qui parle bien français sans accent. Donc ça fait vraiment très asiatique. Il est censé être espion. Alors je sais plus si c'est chinois, japonais.
Voilà. Et en plus son nom n'est jamais prononcé de la même façon. Je sais pas si t'as remarqué. à la fin, il y a quand même une longue scène de dialogue où un personnage au début de la scène prononce son nom d'une certaine façon et plus tard dans la scène le prononce d'une autre façon. Donc on a l'impression qu'en plein milieu du tournage, le réalisateur lui a dit attends, c'est pas comme ça que ça se prononce. Mais on refait pas les scènes d'avant. Non.
Globalement sur la série, de toute façon entre les différents prénoms, parce qu'il y en a une qui s'appelle Chiquita quand même.
Oui.
C'est
brésilienne.
Parce qu'il y a quand même l'anglaise qui est absolument magnifique, qui vient de se faire kidnapper, enfin qui a voulu faire la méline, qui s'est fait choper, etc. Et qui explique après, quand elle voit Jean Marais, que les autres ont avec un bon accent anglais qu'elle a eu tout le long jusque-là. Elle nous dit, et moi je suis anglaise, et d'ailleurs je parle sans accent. Et elle arrête de prendre l'accent, et elle continue sans prendre l'accent anglais. C'est quand même absolument énorme.
Il faut avouer quand même que l'accent anglais qu'elle a avant, ça fait franchement français qui parle anglais.
Oui, mais du coup, c'est
comme
c'est
le français qui parle allemand.
C'est génial.
Voilà. Je tiens à dire quand même que non, ça n'est pas une surprise que Jean-Marie fasse du kung-fu. Moi, je suis désolé, tout le monde rigole quand on dit ça. Jean-Marie était aussi une star d'action dans les années 60. Faut pas oublier les Fantomas. Il fait quand même 3 Fantomas qui étaient un peu James Bond à la française à l'époque, avec de l'humour en plus, avec le commissaire Juve. On enlève Juve, c'est James Bond, Fantomas. Et donc voilà, Jean-Marie, c'est pas uniquement La Belle et la Bête. Jean-Marie, c'est pas uniquement Cocteau. Il avait déjà un peu cette double casquette. Et il a fait pas mal de télé en dehors de Karateka. Donc voilà.
Ah oui, la télé, oui. Oui, ça.
Donc c'est pas tel. C'est un ovni, mais pas tant que ça, Karateka & Co. C'est un peu ce que j'en. C'était un peu ma mission cette année à Comic Con Paris. Et c'était de montrer aussi, et ça, je sais que. Du coup, je vais franchement donner envie de le voir, que Karate Boy a un ancêtre. Karate Boy, donc.
Karate Papy.
C'est un peu ça. Et je sais que Monsieur Poulpe et Davy Mourier. Je leur ai fait voir un extrait un peu sous le manteau, et ils étaient très déçus de ne pas pouvoir venir à la projection, et voilà, on a un peu retrouvé l'inspiration, et dans la thématique, et dans, comment dire, la réalisation des combats, avec des coups portés à 1 mètre.
Il y a les coups portés à 1 mètre, et il y a quand même ce que Dominique a pu voir aussi, mais qui se réitère plusieurs fois. Jean-Marie a une technique particulière sur le kung-fu, c'est-à-dire qu'il aime bien passer les coucougnettes des gens quand il fait du kung-fu.
Il y a ça, il y a aussi le fait qu'il finit jamais ses prises.
Ah,
il y a plusieurs fois où il essaye de faire un jeté d'adversaire, en fait il n'y arrive pas, donc il le fait juste valdinguer.
J'adore aussi, c'est quand il jette les adversaires sur les tables, mais que la table tombe pas quand il le jette, et qu'il donne un coup de pied dans la table pour qu'elle tombe. C'est génial. C'est génial aussi.
Et sachant que juste avant Karate Kazenko, il y avait donc The Zombies of the Stratosphere, qui est quand même un moment très particulier de combien, 13 minutes
c'est un épisode de serial. Zombies of the Stratosphere, c'est un serial qui date de 1953, produit par Republic Pictures, qui a produit probablement les meilleurs serials. Les serials, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, déjà vous arrêtez d'écouter ce podcast et vous cherchez sur Wikipédia, je ne sais pas. Non, les serials, c'est un peu. C'était les séries télé avant la télé. C'était au cinéma dans les années 40, 50, principalement aux États-Unis. Et donc, quand on avait les informations, le cartoon, le film, il y avait un épisode de serial. C'était des grandes histoires de 2 heures, mais découpées en tranches de 13 minutes. Et donc, à chaque fois. La séance retour découverte à Comic-Con, on a eu envie de reproduire un peu cet aspect vintage et d'avoir un avant-programme à chaque fois. On avait déjà fait ça l'an dernier avec Avengers of Captain Marvel, et cette année on a voulu passer Zombies of the Stratosphere parce que dedans il y a les débuts d'un acteur culte de série télé, Leonard Nimoy. Bien sûr, Monsieur Spock dans Star Trek les 66, il a déjà joué un extraterrestre 13 ans avant, donc dans Zombies, où il joue un martien. Il joue grosso modo le bras droit du martien en chef, dont le plan est, accrochez-vous bien,
c'est très documenté scientifiquement,
voilà.
Attention.
De faire détonner une bombe atomique sur la Terre pour dévier Mars de son orbite pour établir une atmosphère vivable sur Mars. Moi je dis tout ça est parfaitement logique. Mais surtout.
Il y a d'ailleurs une très belle phrase.
Une très belle phrase qui est c'est hautement improbable, mais c'est possible.
Tout à fait, c'est quasiment la conclusion de l'épisode.
C'est
un peu la coda. Mais ce qui est vachement intéressant dans ce serial là, c'est le début de Nimoy, qui en plus dans le dernier épisode, celui qu'on a diffusé, a tout un monologue en gros plan, donc on voit vraiment qu'il avait déjà sa gueule assez caractéristique. C'est que c'est un serial qui s'inscrit dans les aventures de Rocketman, qui est le héros qui a inspiré Rocketeer, si vous connaissez ce film là et on se rend compte qu'on est en 53 et les effets spéciaux marchent vachement bien. Honnêtement, vous devez quand même être honnête. Je suis désolé. Vous n'avez pas vu. T'as pas vu l'épisode avec la poursuite d'Orbord, qui est vachement bien réalisé.
Non, je l'ai pas vu. Mais par contre, il y a un truc, c'est que visiblement le fabricant des portes d'accès des vaisseaux spatiaux a fait fortune du côté des gentils comme des méchants, vu que c'est la même porte.
C'est le même. Le vaisseau de Rocketman et le vaisseau des Martiens, c'est le même filmé de l'autre côté.
Ouais, c'est impressionnant.
Mais quand Rocketman s'envole, son costume est vachement bien.
J'adore le petit bouton qui lui permet de faire down pour atterrir.
La fameuse crédibilité scientifique dont on parlait. Donc.
Ah, c'est très documenté.
Mais dans le genre sériel. C'est vraiment l'un des meilleurs exemples. Après, si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas la télé...
C'est très drôle, parce que c'est comme quand il coupe le tuyau d'oxygène au tout début de l'épisode et qu'il récupère le tuyau, le bout de tuyau...
Il y a les scènes sous-marines.
Oui.
Gros budget.
Il met les deux tuyaux bout à bout pour récupérer l'air et les remet bien avec sa main. Il n'y a plus une goutte d'air qui s'échappe.
La Rocketman, quoi.
C'est le charme du serial.
Mais
c'est vraiment. Il y a des serials vraiment insupportables. Ce qu'on vous amène ici, c'est la crème de la crème. Hein. On vous fera voir des trucs. Alors, on fait une méga digression. Il y a un film dans le genre serial des années 50 qui s'appelle Valley of the Zombies. Il n'y a pas de vallée, il n'y a pas de zombies. Voilà, la zombie au stratosphère, il y a des martiens, il y a la stratosphère, il y a du Rocketman. Tout y est. Donc ne vous plaignez pas, s'il vous plaît, ou sinon ne revenez pas l'année prochaine.
Bon, par contre,
parce que ça sera pire.
C'est une revisitation du genre du zombie. Hein. C'est pas tout à fait le zombie comme on le connaît. Ce sont des martiens. Voilà.
Voilà.
Bon, Merci beaucoup, Romain.
Je vous en prie, revenez quand vous voulez.
Une expérience rare à renouveler.
Je ne sais pas quoi vous dire. Je décline toute responsabilité.
Et il ne s'excusera pas.
Hein. À jamais, jamais.
Bon, merci à tous de nous avoir écoutés et bonjour chez vous.